Bonjour et bienvenue sur Radio Picasso. Drôle d'émission aujourd'hui puisque nous recevons un ancien élève qui a fréquenté notre LPO il y a une vingtaine d'années et qui occupe aujourd'hui un poste de direction à l'Agence Régionale de Santé. Pour évoquer ce singulier parcours, une fois n'est pas coutume, deux enseignants chevronnés, M. Azam et M. Toulon, faute d'élèves disponibles en ces temps hivernaux et grippaux. Bonjour M. Mili Spahic.
Bonjour.
Ravi de votre visite. Ravi que vous ayez rencontré des élèves de l'option géopolitique ce matin et ravi de vous avoir au studio. Est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer où vous avez grandi ?
Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation. J'étais très heureux de revenir ce matin sur les terres givordines ici au lycée où j'ai eu l'occasion de passer trois années. Je suis né à l'étranger et puis j'ai effectivement ensuite grandi dans la banlieue lyonnaise, exactement à Comunet, pas loin d'ici, où j'ai eu l'occasion de notamment faire une partie de mon école primaire, puis le collège avant de rejoindre le lycée ici à Givors.
C'était comment le lycée Aragon il y a 20 ans ?
C'était loin, c'était il y a très longtemps, ça me paraît d'une certaine façon éloigné et en même temps assez proche en revenant ce matin et en voyant que tout n'avait pas forcément changé et en retrouvant d'une certaine façon presque des réflexes de parcours dans les couloirs. Comment c'était ? C'était un lieu que moi j'ai trouvé exaltant et où j'ai pu satisfaire en grande partie la curiosité qui était la mienne à l'époque et qui a continué, je crois, à être aujourd'hui.
Mili, est-ce que tu peux nous dire le parcours que tu avais suivi au lycée, les spécialités que tu avais pu réaliser au lycée ?
Alors, dans mon souvenir, bac ES avec une spécialité mathématique à l'époque, faite sans doute en première et en terminale, je crois qu'on devait choisir à partir de l'année de seconde. Un parcours que moi j'avais déjà un peu précalibré et préchoisi d'une certaine façon, puisque je voulais absolument pouvoir ensuite continuer par des études en sciences politiques et notamment en sciences sociales dans l'enseignement supérieur. Voilà. Je crois que mes parents à l'époque n'étaient pas super favorables à ce choix. Ils auraient préféré que je fasse un bac scientifique avec des options de physique. Ils me voyaient bien ingénieur ou médecin. Et moi, je me voyais bien à faire des politiques publiques de la santé. Voilà.
D'où vient du coup cette appétence pour la santé ? Parce que c'est original d'être lycéen et de se dire « je me verrais bien dans les politiques publiques pour la santé ».
Bah, ça vient de plusieurs choses, je pense. Ça vient d'un parcours personnel et d'une histoire familiale où il y a quelques médecins et quelques professionnels de santé. Ça vient aussi d'une histoire de vie post-conflit et d'une volonté, y compris dans ma famille paternelle, de servir l'intérêt public et le service public qui a continué, et de servir l'État pour les politiques publiques. Ça vient aussi de la volonté d'être dans des métiers qui sont des métiers du soin et des métiers où on prend soin de l'autre, et des métiers où la valeur humaniste a toute sa place.
Comment est-ce que ça a été articulé, votre projet d'orientation ? Comment vous saviez qu'il fallait aller vers Sciences Po à l'époque pour s'occuper, justement, pour occuper un poste à responsabilité dans le service de la santé ?
Alors, je ne savais pas forcément tout de suite à l'origine. Ce qui est sûr, par contre, c'est que cette curiosité que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'elle a été présente tout au long de mon parcours et encore aujourd'hui. Et donc, j'étais quelqu'un qui posait beaucoup de questions, je pense, et qui se renseignait beaucoup auprès des enseignants qui m'ont beaucoup aidé, à l'extérieur de l'établissement, dans les réseaux familiaux et sociaux. Je passais quand même pas mal de temps au CDI à me documenter et à faire de la recherche dans un temps, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, où l'accès à Internet n'était pas garanti. Et donc, il y avait quand même une recherche permanente d'informations pour tester des idées, se confronter à la réalité aussi de ce qui était possible et de ce qui ne l'était pas, et du chemin à trouver. Je dirais qu'il y avait plutôt une détermination qu'un chemin tout tracé, qui après s'est fait au fur et à mesure des différentes rencontres.
Et est-ce que tu peux nous dire donc concrètement le parcours que tu as suivi du point de vue des études supérieures ?
Alors, après le lycée, sur les bons conseils de mes enseignants, j'ai rejoint une classe préparatoire, BL, et puis j'ai eu la chance également, très vite ensuite, de rejoindre un parcours en sciences politiques à Lyon, et de finir par un diplôme Bac plus 5, Master à Sciences Po Lyon, sur les politiques publiques notamment comparées, les politiques publiques en lien avec la question environnementale et déjà la question de la santé, effectivement, où j'ai réussi à mixer les questions politiques publiques, santé et internationales. Et donc ça résonnait bien dans les choix personnels, le parcours de vie et puis ce que j'avais envie, moi, de faire dans mon activité professionnelle et aussi une façon de rendre ce que j'avais pu acquérir comme compétences et comme savoir.
Lorsque vous dites une classe préparatoire avant d'intégrer Sciences Po, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un échec à intégrer Sciences Po directement après le bac, ou est-ce que c'est une stratégie qui était posée dès le départ de passer par une classe préparatoire ?
Alors, je n'ai pas souvenir, et c'est un peu la question m'a été posée tout à l'heure, je ne suis pas certain qu'à mon époque on pouvait intégrer directement, en fait. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas eu de tentation du concours. J'avais plutôt dans ma stratégie, comme vous dites, l'idée de me dire que la possibilité était de passer par l'enseignement supérieur universitaire avant de pouvoir rejoindre la filière grandes écoles. Et ça me semble tout à fait ouvert, tout à fait possible, et encore aujourd'hui, et tout à fait enrichissant d'ailleurs pour l'étudiant comme pour l'institution.
Est-ce que tu peux... Donc, après nous avoir rappelé ton parcours en études supérieures, nous donner des indications sur ton parcours professionnel.
C'est un parcours professionnel qui est varié, moi je dirais, mais avec quelques lignes directrices qu'on a évoquées, c'est-à-dire effectivement la thématique ou le champ de la santé dans son acception assez large, avec une question aussi territoriale. Donc soit le territoire le plus petit, un département, une région comme aujourd'hui, jusqu'à le territoire international que j'ai pu avoir en étant en poste dans les institutions européennes à Bruxelles, dans des comités et conférences d'organisations internationales, ou en bossant effectivement, notamment également pour l'Agence française pour le développement, sur des missions d'expertise et d'inspection contrôle.
Comment on passe d'une école supérieure comme Sciences Po à ces premiers postes-là ? Ça s'articule comment ? C'est des stages qu'on a fait dans les dernières années ? On postule avec des centaines d'autres personnes ? Enfin, comment ce passage se produit ? Enfin, se produisait en tout cas.
Quatre choses, je dirais. Beaucoup de stages. Moi, j'ai beaucoup regretté, par exemple, ça n'existait pas, pour le coup, au moment où je l'ai fait, qu'on ne puisse pas réaliser une partie des études, notamment le Bac plus 4, Bac plus 5, dans des filières d'alternance. Moi, j'aurais beaucoup aimé faire ça. Un, pour l'insertion professionnelle, mais aussi pour une question d'autonomie financière qui peut se poser pour un certain type d'élèves boursiers, ce qui était mon cas. Donc, j'ai fait beaucoup de stages dans beaucoup d'endroits différents pour apprendre, tester, et rencontrer des gens. La deuxième chose, c'est quand même la question du réseau, des connaissances, et de ceux qui peuvent non pas forcément vous obtenir le job, parce que ça, j'y crois moyennement, mais plutôt qu'ils sont capables de vous donner des indications sur là, ça serait possible, là, il faudrait voir cette phase-là, là, il faudrait développer cette compétence-là, là, il te manque cette brique-là pour pouvoir aller dans cet endroit. Et puis, des rencontres qui en amènent d'autres, qui en amènent des troisièmes, qui sont des découvertes à chaque fois, qui permettent à un moment donné d'accéder. Et puis, le troisième, moi, je dirais peut-être la nécessité... d'être assez curieux et assez ouvert sur ce qu'il est possible de faire. Moi, je savais ce que je voulais faire comme métier ou comme thématique plutôt, mais ensuite, c'était aussi aux premières opportunités, et donc il faut accepter d'avoir beaucoup d'échecs avant de pouvoir avoir la première porte qui s'ouvre. Voilà, donc il faut postuler, il faut repostuler, il faut s'entraîner, il faut refaire son CV, il faut l'améliorer, il faut s'entraîner de nouveau, il faut repostuler avant que la porte elle s'ouvre. Ce qui est mon quatrième point, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire preuve de résilience, pas se décourager, parce que ce n'est pas si facile que ça non plus.
Tu as évoqué le fait que tu as pu participer à des, travaux dans le cadre d'organisations internationales et notamment les COP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Oui, j'ai eu beaucoup de chance en étant en poste à Bruxelles d'être non seulement dans une équipe projet, mais en plus dans une équipe projet qui travaillait dans un environnement un peu particulier puisque il fallait défendre une position européenne dans une organisation internationale d'États membres, notamment de la COP Cancun qui s'est prolongée par la COP Copenhague. Donc c'est les organisations de conférences des parties de négociation des accords climatiques. Et moi, une partie de mon job avec les collègues était de défendre une position européenne, notamment de promotion, de financement nouveau vis-à-vis des collectivités territoriales et collectivités locales pour qu'elles puissent mettre en place des programmes d'amélioration de l'environnement, de transformation énergétique et écologique dans une visée d'amélioration de la santé de leur population, notamment sur une question de pollution atmosphérique, par exemple, circulation alternative, circulation douce, mise en place des tramways, mise en place des pistes cyclables, qui nécessitent forcément des investissements lourds, et donc comment on arrive à les financer, par exemple au travers de taxations internationales dans des accords climatiques de cette envergure.
Tu avais évoqué la taxe carbone, c'est ça ?
Exactement, donc c'était aussi à l'époque la montée en charge du marché carbone, et donc d'une taxation carbone, et il y avait toute une réflexion sur le fait de se dire si on a une taxe, que cette taxe elle est prélevée, s'il y a une bourse où on permet d'échanger des produits et des biens, est-ce qu'on est capable de taxer ces transactions financières ou ces transactions de produits et qu'une partie de cette taxation revienne aux États membres pour venir financer des politiques publiques territoriales.
Est-ce que tu pourrais juste nous dire, peut-être en donnant un exemple, relater la complexité de ces relations internationales ?
Peut-être l'exemple que j'utilisais tout à l'heure avec les élèves en classe... Une de mes plus grandes surprises, c'est de prendre en considération deux choses. Le temps long dans lequel s'inscrivent ces organisations et ces conventions et ces négociations. Et le temps long également dans un multiculturalisme dont il faut prendre compte. Lorsque l'on négocie en anglais et qu'ensuite, par exemple, ces documents doivent être traduits dans des langues de travail, dans les langues officielles des Nations Unies, la traduction, elle emporte quand même un certain nombre de modifications dans le texte, un mot qui n'a pas tout à fait le même sens, pas tout à fait la même signification, une virgule qui n'est pas tout à fait au même endroit, parce que la syntaxe n'est pas la même entre l'anglais, le russe, le français. Et ces modifications-là, elles emportent des conséquences juridiques, des conséquences financières, des conséquences d'engagement, ce qui fait que ça s'inscrit dans un temps long, et dans un temps où il faut prendre aussi en compte justement ce que les autres parties ont à apporter. Et une de mes plus grandes surprises, ça a été une des premières négociations à laquelle je participais, où on était sur un tout petit paragraphe de quelques lignes, 3-4 lignes, et où nous rentrons en réunion, et mon supérieur de l'époque, le chef d'équipe, me tend le papier, et je lui dis... Mais pourquoi il est noté toute une matinée de travail dans cette salle de réunion sur un paragraphe de 4 lignes ? On en a pour 15 minutes et on a eu 15 jours in fine de travail sur ce paragraphe parce que tous les mots sont décortiqués, tous les mots peuvent changer de place et c'est un accord engageant, c'est un accord qui vise à l'engagement, c'est un accord qui pourrait permettre l'engagement, c'est un engagement... Ou c'est un contrat, voilà, tous les mots ont un sens, la sémantique a un sens, et derrière c'est des répercussions majeures pour les États membres, pour les institutions internationales, pour les banques de développement. Et donc chacun vient avec ce qu'il a à négocier, et là où il a envie de faire un bouger, et donc ça pousse au compromis, et pour que le compromis puisse se faire dans des organisations internationales, et préserver l'ordre tel qu'il est aujourd'hui, bah, il faut du temps.
Avant qu'on évoque le domaine de la santé qui est le vôtre aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une tentation diplomatique ? Parce que là, quand on vous écoute, on se dit, mais on est au cœur de l'histoire. On est au cœur des choses qui se fabriquent. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une hésitation, du coup, en se disant, ben oui, travailler dans le domaine international, dans les relations internationales, faire partie des COP, je peux faire ça ?
Tentation, oui. Je l'ai fait, donc j'en suis content. Sans doute que je le referai à un autre moment. arrivé, je trouve, en tout cas moi, j'ai retrouvé un équilibre d'arriver à mixer le local et l'international. Et d'avoir ces allers-retours-là, moi, me convient et en même temps me semble assez important parce que dans une situation comme dans l'autre, on apporte des choses un peu différentes à chaque fois. Et puis ça fait du bien aussi, dans mes fonctions actuelles, d'être au plus proche du terrain, d'être au plus proche des acteurs, d'être aussi au plus proche parfois des difficultés, mais aussi des solutions qui sont apportées et d'en voir le résultat pratiquement immédiat, ou en tous les cas beaucoup plus rapide. Embrasser une carrière diplomatique à 100%, je crois qu'assez vite je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui allait me convenir et que je n'étais pas non plus forcément le profil le plus idoine pour faire ça. Ça a des impacts, je le répétais tout à l'heure aux élèves, sur la vie familiale quand même, qui sont conséquents. Et c'est quand même un métier difficile, spécifique et avec beaucoup de contraintes. Donc voilà, je me suis dit que me permettre de faire les allers-retours était une bonne voie.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le fonctionnement de l'administration de la santé en France et de ces fameuses ARS dont on a beaucoup entendu parler depuis ces dernières années, mais dont on connaît assez peu le périmètre d'action et l'organisation ?
Alors l'administration de la santé en France, elle pourrait se résumer, et j'espère n'oublier personne, entre une administration centrale avec un ministère basé à Paris. Et puis, ce ministère possède soit des opérateurs nationaux, des établissements nationaux, des agences notamment d'expertise très précises, comme Santé publique France, par exemple, comme l'Agence nationale de la sécurité du médicament, comme l'Institut national du cancer, qui ont des missions de production de connaissances et de mise en œuvre de politiques publiques, notamment au niveau national, ou de la construction de référentiels, comme pour la Haute Autorité de Santé. Puis vous avez effectivement ensuite, sur le champ de la santé, des agences régionales, une par région, qui, elles, ont la totalité du champ santé sous leur responsabilité, c'est-à-dire le champ sanitaire, le soin à l'hôpital, le soin en ville, le médecin généraliste, le médecin spécialiste que vous voyez en ville, mais aussi l'ensemble du champ médico-social, les personnes âgées, les EHPAD, mais aussi les personnes en situation de handicap, par exemple, et sur l'ensemble de ce champ, que ce soit donc dans une démarche de soins comme dans une démarche de prévention, la mise en place des politiques publiques de prévention dans les territoires. Et puis, c'est aussi les agences régionales de santé en lien avec les collectivités territoriales, les élus, les établissements, des offreurs de services pour l'installation des professionnels de santé, par exemple. Et donc, une agence régionale de santé, ça fait, pour résumer, trois métiers. Un premier métier qui est un métier de régulation. Une agence régionale de santé, elle décide de quelles sont les activités de soins qui sont réalisées sur un territoire et quelles sont les activités de soins qui n'y sont pas réalisées et qui peut les réaliser. Donc, elle autorise un établissement ou un professionnel à exercer une activité. Et donc, elle définit des objectifs quantifiée de l'offre de soins et elle organise cette offre. Elle est aussi un régulateur parce qu'elle permet de faire en sorte qu'il y ait l'accès aux soins qui soit garanti à chacun des citoyens. La deuxième, c'est que c'est une agence qui est un accompagnateur pour la mise en place de projets. Va venir accompagner les professionnels dans leur installation, va venir accompagner les établissements dans leur politique d'investissement, va venir accompagner les collectivités locales dans la mise en place, par exemple, de projets, de contrats locaux locaux de santé qui sont des démarches notamment de prévention primaire et de prévention secondaire. Prévention primaire, on aide à lutter contre l'arrêt du tabac par le fait de ne pas rentrer dans le tabac, par exemple. Et puis, prévention secondaire, on va dépister quelqu'un qui a les premiers signes en faisant une radio, par exemple, des poumons. Et puis même une prévention tertiaire, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Vous êtes déjà atteint d'une pathologie, on va vous aider à vous prendre en charge et à vous soigner. Et puis le dernier volet, c'est un financeur. L'Agence régionale de santé finance la politique de santé et alloue les ressources dans le système, c'est plusieurs milliards d'euros pour chacune des agences annuellement qui sont répartis vers les établissements, vers les professionnels de la ville, vers le secteur médico-social et vers le tissu associatif et les opérateurs. Et puis, il y a un autre volet quand même de la politique de santé que je mentionne qui est quand même important, c'est tout le volet qui est celui de la sécurité sociale, qui est un volet majeur, qui sont des établissements publics de l'État autonomes avec leur propre système de gouvernance basé sur le paritarisme. Et dans la sécurité sociale, vous avez plusieurs branches, la branche maladie, la branche retraite, la branche famille, la branche recouvrement, et puis la cinquième branche, la branche autonomie, chacune de ces branches ayant sa propre organisation et ses propres réseaux ensuite locaux, bien connus des gens, la CEPAM, par exemple, ou la CAF.
Et dans le cadre des responsabilités que tu occupes dans ce domaine, qu'est-ce qui te passionne et puis quelles sont les difficultés peut-être que tu peux rencontrer dans ces fonctions ?
Ce qui est passionnant, c'est d'être au service d'une politique publique qui est parmi les principales préoccupations ou la principale préoccupation des citoyens. Et même si elle n'est pas forcément visible tout le temps comme dans les premières préoccupations, on est toutes et tous concernés par notre propre santé. Et on en est aussi tous acteurs. Et en même temps, dans un pays comme la France, c'est un bien collectif aujourd'hui, fondé sur la cotisation et le consentement à l'impôt. Et donc, il y a quand même, le fait d'être sur une politique publique majeure, de répondre à des besoins, de rendre service, d'améliorer la santé des gens de manière globale et d'apporter un service transformé et amélioré. Ce qui fait que tous les matins, lorsqu'on se lève, on est plutôt content et satisfait de faire ce métier-là et de travailler dans ce champ-là. Il y a un vrai engagement, il y a une vraie vocation et je crois que c'est quelque chose qu'on partage avec l'ensemble des professionnels, les professionnels de santé, médicaux, non médicaux, soignants, mais également ceux qui travaillent dans les administrations, d'être au service de la population sur une politique majeure.
Ce matin, Monsieur Spaich, vous êtes venu dans une salle de classe. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement, d'aller rencontrer des jeunes et évoquer votre travail ou est-ce que c'était spécifique parce que c'était votre ancien lycée ?
Non, c'est la première fois que je le fais. C'est la première fois que je le fais dans ce cadre-là. J'ai continué notamment une activité d'enseignement et de formation dans l'enseignement supérieur, mais c'est vrai que la relation n'est pas la même. Et là, Alain Azam me l'ayant proposé, je me voyais difficilement refusé pour plusieurs raisons. Un, parce que je trouve que c'est, comme je l'aurais dit, c'est aussi un apprentissage pour moi, de retour, de questions qui sont posées, de réactions qu'ils peuvent avoir à ce que je dis. C'est aussi un juste retour, à ce que le lycée et le corps enseignant m'a donné et m'a transmis il y a quelques années. Et puis, si ça, tout ce que je dis là peut susciter des vocations, éclairer un chemin d'orientation, j'aurais participé modestement à leur éclairer potentiellement un chemin ou une voie, et j'en serais très content.
Alors, ça faisait 20 ans que tu n'étais pas revenu au lycée. Qu'est-ce qui t'a étonné concernant le lycée, concernant aussi les élèves que tu as pu rencontrer ce matin ?
J'ai d'abord réussi à retrouver mon chemin, j'y repense maintenant, sans difficulté et sans avoir à mettre mon Waze ou mon GPS, ce qui fait qu'il y a quand même quelques repères qui sont restés. En arrivant, j'ai trouvé que l'environnement n'avait pas tellement changé et que l'architecture n'avait pas connu de modernisation qui m'ont permis de me repérer assez facilement, de me retrouver dans les couloirs, de retrouver assez facilement l'endroit où se situe la salle des profs qui n'a pas changé depuis 20 ans. Et puis, Ça a rappelé des souvenirs, ça a rappelé des passages d'un moment qui était un moment heureux pour moi, d'apprentissage et d'assouvir aussi une soif de savoir et de curiosité qui était la mienne. Pour les élèves, je me souviens à mon époque que peut-être on participait un peu moins et on était un peu plus bruyants. Sans doute que soit il était tôt ce vendredi matin et ce que je leur racontais n'était pas d'un grand intérêt. Voilà, et la responsabilité sur moi. Mais en même temps, ils ont posé pas mal de questions. Ils ont été curieux, attentifs, bienveillants. Mais il y avait un certain calme également dans la salle qui m'a un peu surpris.
Nous arrivons à la fin de cet entretien, Monsieur Spahitch. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Ben non, je vous remercie et puis je vous remercie de cette invitation. Je vous remercie de ce temps d'échange et j'espère encore une fois qu'il sera utile. Et je remercie les élèves ce matin qui étaient présents, toniques et bienveillants à mon égard pour m'écouter et échanger avec moi. C'était un plaisir.
Les élèves le savent et tout le lycée le sait. Si vous êtes venu une fois, malheureusement, attendez-vous à ce que vous soyez réinvité dans le lycée pour évoquer votre parcours par M. Azam. Eh bien, merci M. Spahitch pour votre temps. Merci M. Azam pour cette rencontre et à bientôt sur Radio Picasso.
À bientôt.